RCF.
Bonjour, amis auditeurs, auditrices de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, avec Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Nous nous retrouvons après 2 mois d'absence, par manque de combattants et aussi des emplois du temps parfois trop denses, justement pour trouver du temps. Notre invité aujourd'hui n'est pas un inconnu. Il s'agit de Christian Roth, professeur honoraire d'histoire du lycée Marguerite Navarre de Bourges, président de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, ancien président de la Société archéologique du Berry et aussi, comme nous le savons, conférencier émérite. Bonjour, monsieur Roth.
Bonjour.
Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Justement, de votre qualité de conférencier, je rebondis sur un thème qui m'est cher, et vous aussi, je sais, la guerre de 1870-1871. Plus particulièrement, un épisode peu connu, l'histoire des mobiles du Cher. Une de vos dernières conférences était consacrée à ces mobiles du Cher. Alors ma première question, monsieur Roth, qu'est-ce qu'un mobile et pourquoi, plus particulièrement, l'histoire du 19e régiment mobile du Cher, avec le titre possible du département du Cher, jusqu'à la suite, c'est une longue histoire.
Oui, c'est une longue histoire, bien que le laps de temps soit court, hein, puisque la guerre de 70, c'est juillet 70, mars 71, hein, et le Cher n'est pas un théâtre d'opérations militaires. Par contre, beaucoup de ses concitoyens, beaucoup de ses natifs ont été mobilisés, et en particulier dans 2 régiments qu'on appelait les régiments de mobiles du Cher. Alors, il y en a eu 2, le 19e, commandé par le lieutenant de la Veine de Choulot, et le 81e, qui a été commandé par le commandant Louis Petit. Et tous les 2 ont participé à ce qu'on appelait la première armée de la Loire.
Oui.
Et donc, bah, ils ont traversé le Cher, ils ont été dans l'Orléanais, et ils se sont battus en particulier le 28 novembre, eh bien, à la fameuse bataille de Juranville.
Oui.
Les Berruyers connaissent un petit peu Juranville, pour utiliser une voie publique,
oui,
qui a été nommée en leur honneur et en leur mémoire. Donc, comme des milliers d'autres, eh bien, ils ont combattu, surtout dans le Loiret. Et comme les autres, bah, ils n'étaient pas très bien équipés, pas très bien armés, pas très bien habillés, etc. Hein. Ils bivouaquaient en plein air. Bon, alors, et puis, il manquait de matériel. Bon. Et début décembre, la situation militaire n'a pas été bonne. Et tout le monde s'est replié. Via Gien, parce qu'il fallait traverser la Loire.
Ouais.
Le pont de Sully avait déjà été coupé. Nos soldats traversent le pont de Gien. Et évidemment, à leur départ, ils font sauter une arche du pont de Gien. C'est un grand classique. Et ils se replient sur Bourges. Et là, il y a eu plusieurs conciliabules importants, disons autour du 19 et du 20 décembre, car évidemment, les militaires étaient là, hein, avec le général Bourbaki,
oui,
qui commandait cette armée. Et pendant une semaine, Gambetta a été à Bourges. Alors, Bourbaki, Gambetta, bon, ben, tous les 2 résidaient à Bourges, et ils conféraient.
Oui.
Et, bon. Et la décision a été prise, non pas de partir vers Paris, comme certains les sollicitaient, mais de se replier sur la Bourgogne, sur l'Ouest, parce qu'il fallait résister. Voilà, il y a eu ce repli, je ne rentre pas dans le détail. Et ils arrivent à la frontière suisse à la fin du mois de janvier. Entre-temps, ils se sont battus X fois. Hein,
voilà.
Et ils arrivent là. Bon, le général Bourbaki, bon, qui n'a pas toujours eu une très bonne réputation, ne va pas très bien. Il tente même de se suicider, dit-on. Donc, il est remplacé par un autre général. Et celui-ci fait passer l'armée en Suisse pour être à l'abri. Parce qu'il n'était pas question de passer en Allemagne. Donc, on est passé en Suisse. Et donc, entre le 1er février... et disons le début mars, eh bien, plusieurs milliers, 87 000 exactement, soldats français, se sont repliés en Suisse.
C'est énorme.
Bah, c'est un grand nombre. Et c'est la première fois que la Suisse mettait en pratique ce qu'on a appelé la Convention de Genève, c'est-à-dire la naissance de la Croix-Rouge, c'était en 1864-66, c'est tout récent. Et donc ils ont fait le premier travail pratique. Quand on parle qu'il faut accueillir 200 personnes et que ça pose problème, eux, ils en ont accueilli, bon, c'était sans doute pour un laps de temps limité, mais 87 000 Français. Bien accueillis, logés, nourris, on leur donnait du travail, etc. Voilà, donc c'est quand même un fait tout à fait important. Ils ne sont pas prisonniers. Nos concitoyens qui sont en Allemagne, eux, sont des prisonniers. Et ils sont dans des camps et c'est à la dure, même à la très dure. Là, ce sont des internés qui sont sous l'autorité suisse, mais ils ont des cantonnements, ils ont la liberté d'avoir ils vont même faire du patin à glace sur les lacs. Non, mais c'est pas, ils sont pas prisonniers, ils sont internés, c'est tout. Et cela quand même est tout à fait à l'honneur de l'accueil et de l'hospitalité helvétique.
Oui, surtout qu'ils ont quand même connu ils ont eu des conditions de vie particulièrement difficiles pendant le conflit.
Alors pendant le conflit, cela n'a pas été très facile. Et là, arrivés en Suisse, ils sont quand même, c'est beaucoup plus confortable, on va dire. Mais parmi eux, il y a des blessés de guerre, et surtout beaucoup de malades,
oui.
Parce que l'hiver 70-71 a été d'une rudesse. Hein. Il neigeait, il y avait de la glace partout. Quand ils ont traversé la Loire à Gien, il y avait plein de glaçons, hein, ça gelait. Hein. Et donc, il y a eu beaucoup de malades. Et comme il y a eu des malades, il y a eu beaucoup de morts. Et surtout les Français qui étaient là, 1800 vont décéder en Suisse.
C'est énorme.
Ce qui est quand même un chiffre extrêmement important. Alors, répartis sur environ 188 lieux de résidence, et puis parmi eux, y a eu 80 décès berrichons. Alors, je n'en ai retrouvé que 19, mais peu importe.
Oui.
Et ils ont des tombes en Suisse. Aujourd'hui, encore... Les Suisses honorent chaque 11 novembre les 141 tombes de Français de la guerre de 70 enterrées en Suisse. Alors bon, il y en a partout, à Lausanne, à Lurich. Bon, ça vous dit quelque chose. Bon, Colombier, ça vous dit pas grand-chose. Verrières, pas beaucoup. Verrières, un petit point. C'est la ville par laquelle ils sont rentrés en Suisse. Il y a un Verrières en Franche-Comté et il y a un Verrières en Suisse. Voilà. Et c'est par là qu'ils sont rentrés. Et d'ailleurs, à Verrières, il y a un monument. Et chaque année, il y a des manifestations à Verrières pour commémorer ce passage français. Donc, ceux du Berry, il y en a qui viennent d'Henrichemont, de Bouleret, d'Ivoilpré. Il y a des Talbot, voyez, des Raffetin, des Rimbaud. C'est bien.
C'est
des noms du terroir.
Des noms du terroir.
Des noms du terroir. Il y en a d'autres qui viennent de La Guerche. Il y en a un autre qui a dénommé Pierre Tête Noire. Donc, vous voyez, des noms tout à fait familiers, dont les sépultures, donc je vous dis, sont honorées. Alors, la paix est signée, les Français veulent bien les recueillir de nouveau. Donc, entre le 10 et le 20 mars, ils reviennent en France. Attention, la France a payé cet hébergement à la Suisse.
Ah, ça...
Il y a un prix. Ça a coûté 12 millions, qui ont quasiment été payés cash. Je vous rappelle quand même qu'à la suite du traité de Francfort, il faudra par ailleurs payer 5 milliards, c'était autre chose.
Et qu'on va payer très rapidement.
Et qu'on va essayer de payer... Ben oui, parce que c'est proportionnel à la libération des départements. Alors, voilà. Eh bien là, on a quand même payé une coquette somme, 12 millions à la Suisse, pour frais d'hébergement et d'hospitalité des mobiles français.
Ah oui.
Ah ben, peu de personnes le savent, mais c'est...
Peu de personnes le savent, hein, ça.
Bah, absolument. Donc, ils y sont venus. Alors, par exemple, parmi ceux qui sont partis, bon, je ne peux pas tous les citer, mais bon, il y en a un, le capitaine Auroi, personne ne connaît, le lieutenant Grenouillet, non. Mais le lieutenant Mater, les gens ont quand même, normalement, doivent se souvenir du lieutenant Mater. Daniel Mater, outre le fait qu'il était avocat, etc., il a été président... On ne disait pas président, je suis président de la commission du musée, donc en fait directeur du
oui.
musée. Et c'est lui qui a fait concrètement ériger en 1907 le fameux monument des enfants du Cher mort en 1870-71, la fameuse statue de Baffier. L'espoir, c'est son nom officiel, qui était réalisé dès 1901, mais qui a stationné entre 1900 et 1907 dans la cour du musée du Berry, parce qu'on ne savait pas très bien où la mettre. Eh bien, c'est Daniel Mater qui a fait ériger le monument le 2 juin 1907.
Ah, très bien.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a eu des témoignages ou des écrits sur cet internement en Suisse?
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des bons. Je pense que ce sont très généralement des officiers ou sous-officiers ou peut-être des témoignages. Est-ce qu'il y a des témoignages de personnes?
Bon, ça va venir. Alors, premièrement, au cours de cet épisode qui n'a pas été très très long, mais le courrier fonctionnait. Et les Français, non seulement pouvaient écrire, mais ils avaient les frais d'envoi gratis. La poste était gratis pour eux. Pour un timbre, c'est pas énorme, mais c'est le principe qui est. Et bien, ils ont écrit, donc, par exemple, le journal du Cher a régulièrement publié des extraits de lettres d'officiers qui disaient que ça se passait bien, que c'était très intéressant. Voilà. Alors, au retour, les deux chefs des mobiles ont chacun écrit leur mémoire, si vous voulez. Alors, le commandant de Chouleau,
oui.
Dès la fin de l'année 70, il a fait ça en feuilleton dans le journal du Cher et après dans un petit opuscule.
Oui. Hein,
donc il raconte, mais il raconte pas trop ce qui s'est passé en Suisse parce qu'il n'y était pas.
Ah.
Mais oui, tout le monde n'a pas été en Suisse. Hein, y en a qui ont encore réussi à prendre la tangente.
Bon. D'accord.
Et l'autre, le commandant Petit, a lui aussi raconté toute cette retraite sur la Suisse. Il a eu quelques lignes dures vis-à-vis d'un de ses soldats qui se sentait pas très bien au mois de décembre quand il était à Gien et qui n'a pas rejoint. Il a eu un congé un peu spécial et puis il n'a pas rejoint son corps à Sancerre comme prévu et puis il n'a pas réintégré l'armée. Il a eu un procès, il a été condamné par le Conseil de guerre. C'était le sergent Louis Pauliat, futur sénateur. Mais qui a eu un moment de faiblesse en 70. Voilà. Et il était dans le 81e régiment de Mobile.
Est-ce que vous avez des chiffres concernant les pertes qu'ont pu avoir ces bataillons?
Alors, sur l'ensemble, c'est très difficile parce que je crois qu'ils n'avaient pas le temps de faire la comptabilité.
Oui, hein. C'est ça.
Je crois que le 19e régiment, c'était 3600 hommes au départ.
Oui. Hein.
Et pour le 81, mais il y avait trois bataillons, donc oui. C'était copieux. L'autre, c'était qu'un seul bataillon, et donc il y avait un petit peu moins de monde. Il y en avait 1325. Mais il y a eu plusieurs centaines de morts. Rien que pour la bataille de Juranville, le 19e a perdu une trentaine d'hommes. Dont deux officiers que l'on continue d'honorer à Bourges, le commandant Martin et le lieutenant Gilardeau.
Alors justement, le commandant Martin.
Oui.
Alors jusqu'à début XXe siècle, à Bourges, les Berruyers commémoraient la tombe du commandant Martin.
Jusque dans les années 20.
Qui était ce fameux commandant Martin?
Alors Charles Martin, c'était un militaire de profession, c'était un officier.
Oui.
Il a été en outre en Crimée, il s'est battu à Sébastopol, etc. Bon, je ne peux pas raconter tout par le menu. Et il était en retraite et en 70, il s'est réengagé et il a été placé à la tête du 19e mobile. Il est mort dans la bataille, il était sur son cheval et puis il s'est fait viser par un Allemand qui était en face. Et donc il n'est pas mort sur le champ de bataille, il est mort à Juranville même. Ce qui fait que c'est une raison d'archives, si vous voulez. On n'a pas un état civil des décédés sur chaque champ de bataille. Ça ne se faisait pas. C'était l'armée. Mais comme lui, il est mort à Juranville, c'est le seul à être dans l'état civil de Juranville comme étant décédé le 1er décembre, 3 jours après la bataille. Il était dans le village. Voilà. Et donc, on a ramené son corps, mais bien après, parce qu'on avait d'autres choses à penser, et on l'a ramené au début du mois de mars, à Bourges. Et donc, il est arrivé par le train, évidemment, par Montargis, Gien, etc. La cérémonie religieuse a eu lieu à Saint-Pierre-le-Guillard. Et ensuite, il a été enterré au Capucin. Et donc, régulièrement, alors autour du 28, le 28 ne tombait pas forcément un dimanche, mais le dimanche le plus proche, les anciens combattants de la guerre de 70, qui formaient une association solide et vigoureuse, honoraient leur mort au cimetière des Capucins. Mais à partir de 1907, quand le monument de la guerre de 70 a été dressé, il y a eu une étape complémentaires. On se réunissait, on allait d'abord au monument de la place Sirocourt et ensuite on allait au cimetière des Capucins.
Amis fidèles auditeurs, auditrices de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry avec Agora Défense, merci de votre écoute, bonne semaine à vous et à très bientôt à l'écoute de RCF.